Canal Académie. L'entretien de la semaine. Rencontre avec un académicien.
Que nous reste-t-il des Jeux Olympiques antiques ? Organisés pour la première fois il y a 2800 ans à Olympie, ils ont été instaurés pour donner une certaine unité au monde hellénique, dans la Grèce antique. Et à cette époque, il n'y avait pas d'épreuve de marathon, mais du pugilat et du pancras. Pas de femmes non plus, on organisait aussi des sacrifices d'animaux en l'honneur de Zeus. Vous le voyez, les différences entre les jeux antiques et modernes sont nombreuses, mais l'esprit de compétition et de célébration sportive reste inchangé. Alors à quelques jours de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024, nous vous proposons de remonter le temps, direction Olympie sous l'Antiquité, et pour en parler, qui de mieux que Laurent Pernot ? Bonjour !
Bonjour !
Alors Laurent Pernot, vous êtes membre de l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres, vous y avez été élu en tant qu'helléniste, vous êtes un spécialiste de la Grèce antique. Alors le plus souvent, vous travaillez sur la rhétorique antique, mais aujourd'hui, actualité oblige, vous allez nous parler de sport, et plus particulièrement des Jeux Olympiques. Nous allons retracer leur histoire, car avant d'être relancés par Pierre de Coubertin à la fin du XIXe siècle, les Jeux Olympiques antiques ont rythmé la vie publique des cités grecques. Merci d'être avec nous pour en parler. Donc, je parlais à l'instant de Pierre de Coubertin, connu pour avoir relancé cette compétition sportive. Est-ce qu'il y avait un équivalent antique, une figure tutélaire qui serait au fondement des tout premiers Jeux Olympiques antiques ? Comment ces Jeux sont nés ?
La figure tutélaire, c'est Héraclès. Hercule, c'est-à-dire le héros mythologique qui, selon la tradition, aurait fondé les Jeux Olympiques en l'honneur de Zeus, son père. Donc, comme vous l'avez dit, les Jeux ont été fondés en 776, donc ils ont tout juste 2800 ans cette année. C'était les plus anciens des Jeux. Parce qu'il faut savoir qu'il y avait dans la Grèce antique plusieurs série de jeux et de concours sportifs, donc les Jeux Olympiques, également les Jeux Pythiques à Delphes en l'honneur d'Apollon et toute une série d'autres.
À Corinthe aussi.
Aussi. Et parmi eux, les Jeux Olympiques se distinguaient donc comme étant les plus anciens, ceux qui étaient consacrés au roi des dieux, Zeus, et les plus respectés. À telle enseigne que les Grecs mesuraient le temps par les Olympiades. Et donc le calendrier des Grecs consiste à compter en Olympiades, et à l'intérieur de chaque Olympiade, en année de l'Olympiade, puisque les Jeux avaient lieu tous les 4 ans, donc on avait Olympiade X, année 1, année 2, année 3, année 4, c'était un calendrier qui valait pour tous, à une époque où il n'y avait pas encore de généralisation, de fédéralisation des savoirs. Chaque cité avait son calendrier, mais le calendrier de tous, c'était celui des Jeux Olympiques.
Ce qui prouve leur importance et leur raison d'être, en fait, à travers ces jeux, on cherchait à rassembler les diverses cités-états de l'époque qui étaient souvent en conflit.
Oui, peut-être peut-on dire déjà que quand on va à Olympie, on est impressionné par les ruines du sanctuaire, et donc on voit bien la présence religieuse qui était celle des Jeux. Donc pour le dire en un mot, Olympie, c'est un sanctuaire de Zeus qui appartenait à une cité, donc la cité d'Élis, qui était la cité organisatrice, située à une soixantaine de kilomètres. Donc c'est un lieu qui se trouve dans une plaine, qui est très facile d'accès, c'est à 15 kilomètres de la mer, c'est sur un fleuve navigable, au croisement de plusieurs routes. Et donc c'est là que venaient se réunir pour célébrer Zeus grâce aux Jeux, les députations venus de toute la Grèce. Ce site a été redécouvert au XVIIIe siècle et fouillé au XIXe, en particulier par les archéologues allemands, qui donc ont fait surgir alors des restes de bâtiments religieux d'une part, et d'autre part, les restes des installations sportives, c'est-à-dire le stade avec sa piste de 200 mètres, l'hippodrome avec sa piste de 600 mètres et 200 mètres de large, et puis toutes les installations qui allaient avec, bains, palestres, piscines. Et donc, ce qu'on voit encore d'Olympie est tout à fait impressionnant et témoigne de l'importance de ces Jeux.
Vous disiez qu'Olympie, le site, était d'abord un sanctuaire, un espace sacré. Et c'est peut-être le premier point de dissemblance que l'on peut faire avec les Jeux olympiques modernes, c'est que les Jeux antiques étaient avant tout une cérémonie, une manifestation religieuse.
Oui, leur raison d'être, comme vous le dites, est en effet de rendre hommage aux dieux. Et alors la forme du concours, puisque les Jeux olympiques, c'est une série de compétitions sportives, la forme du concours pour les Grecs est une manière de célébration. La célébration des dieux se fait par des concours. On peut tracer un parallèle avec la tragédie grecque. La tragédie à Athènes se déroulait dans le cadre de concours. On classait les tragédies. Il y avait un premier, un deuxième, un troisième. Et ce concours était un hommage à Dionysos. Alors, de la même manière, donc, les compétitions sportives étaient un hommage rendu aux dieux. Donc à la base, il y a cette volonté religieuse. Mais il y a aussi, à travers cela, l'idée d'un idéal d'union des Grecs. Donc avec une nation qui était émiettée en cité-état autonome, là, à l'occasion de ces Jeux, les cités se retrouvaient et communiaient dans leur appartenance commune. C'est ce que les Grecs appelaient l'idéal panhellénique. Et donc le panhellénisme, c'est l'idée de réunir tous les Grecs autour de leurs valeurs, à leurs valeurs religieuses donc d'abord, et puis aussi ce qui faisait pour eux la valeur de la vie et la civilisation. Et notamment donc le sport, la compétition juste, la beauté du corps. Tout ça, ce sont les valeurs grecques qui étaient affirmées à travers le concours.
C'est un moment de trêve. Alors, il y a même un mot, vous allez sûrement me corriger dans la prononciation, ekekeria.
Eh ?
Et lors de cette période de trêve, des messagers vont se déplacer de cité en cité pour annoncer la date des compétitions. Et ainsi, des milliers d'habitants vont se déplacer, venant de toute la Grèce et de ces... Alors, je ne sais pas si on peut parler vraiment de colonies, mais d'Italie, d'Afrique du Nord, c'est un moment de rassemblement.
Oui. La trêve, à l'origine, était destinée seulement à laisser passer les participants du concours, à leur permettre donc de traverser toutes les cités grecques dans un état de paix, quoi, et donc sans avoir à craindre pour leur sécurité. Mais elle a pris une valeur un petit peu plus large, évidemment, et donc pendant la période des Jeux, on essayait de respecter, peut-être pas d'interrompre les guerres, mais enfin de respecter cette trêve. Oui.
Et comme aujourd'hui, les Jeux prennent place tous les 4 ans, vous l'avez expliqué tout à l'heure, mais à la différence de maintenant, leur durée est beaucoup plus courte. Les Jeux olympiques durent environ 5 jours. 5 jours, c'est leur durée. Pourquoi si peu ?
Il y avait moins d'épreuves qu'aujourd'hui, peut-on dire. Et puis, les 5 jours, ce sont les jours de la compétition. Donc, avec un premier jour pour les cérémonies, les sacrifices préliminaires et puis les serments, parce que les athlètes et les arbitres prêtaient serment. Ensuite, il y avait en gros deux sortes d'épreuves, les épreuves de cheval, donc cheval monté ou cheval attelé, donc course de cheval ou course de char, et puis d'autre part les épreuves d'athlétisme, donc disque, javelot, saut en longueur, course, lutte, ça c'est le pentathlon, et puis il s'en est ajouté d'autres, la course en armes, le pugilat, etc. Et puis la dernière journée était consacrée au sacrifice, à la proclamation des vainqueurs. Mais les participants étaient arrivés en Élide, donc dans le territoire de la cité d'Élis organisatrice, un mois à l'avance, avec leurs accompagnateurs, et donc toute la partie que nous dirions être de qualification se déroulait en amont, en quelque sorte. Et donc c'est pendant ce mois que les participants s'entraînaient sous le contrôle très strict des juges, et au fond, les 5 jours, c'était ce que nous appellerions les finales.
En fait, ce sont des sportifs tels que l'on s'en fait l'image aujourd'hui, ils arrivent, ils sont coacher, alors à l'époque on ne parle pas de coach, mais c'est un entraînement similaire à ceux d'aujourd'hui.
Oui, et les Grecs étaient très avancés dans ce domaine-là, parce que la médecine grecque était extrêmement développée, hein, il suffit de rappeler le nom d'Hippocrate qui appartient au grand siècle des Jeux, et donc les médecins grecs étaient forts pour ce qui concernait le régime, l'exercice et le traitement des blessures. Et donc ça convient parfaitement pour le monde de l'athlétisme. Il leur manquait évidemment la pharmacopée qui est la nôtre et tout le reste, mais l'habileté technique et le coup d'œil pour évaluer la santé d'un athlète, ça, il l'avait.
Et alors arrive donc le premier jour des compétitions avec la cérémonie d'ouverture. On estime qu'à peu près 40 000 personnes participaient et assistaient à ces Jeux. Alors c'est un chiffre à recontextualiser, c'est vraiment beaucoup pour l'époque.
Oui, à la meilleure époque, disons au 5e siècle. Parce que les Jeux ont commencé petitement, comme les Jeux modernes d'ailleurs, avant de connaître leur plein développement. Donc à la pleine époque, oui, on évalue à 40 000 le nombre des spectateurs. Bah, il faut se représenter l'été dans cette contrée d'Olympie, ne serait-ce que les problèmes d'adduction d'eau, de ravitaillement et autres. 40 000 personnes, c'était déjà considérable. Le nombre des athlètes participants, des concurrents, on l'estime à quelques centaines. Peut-être 300 à cette époque-là.
Et que des hommes.
Alors oui, malheureusement, bon, disons, les Grecs ont inventé beaucoup de choses, mais pas tout quand même. Il leur restait des progrès à faire. Et donc les femmes ne participaient pas aux Jeux Olympiques, sauf peut-être la prêtresse de Déméter qui avait le droit d'assister. Mais c'est parce que toutes les fêtes religieuses étaient séparées. Il y avait des fêtes pour les hommes et des fêtes pour les femmes. Donc les Jeux Olympiques, en tant que fêtes religieuses, étaient réservés aux hommes. Et il y avait en parallèle une fête féminine pour les jeunes filles et pour les femmes, en l'honneur d'Héra, la déesse épouse de Zeus, donc les Héraïa, qui se déroulaient aussi à Olympie en parallèle et qui avaient beaucoup moins d'épreuves, mais des épreuves de course. Ça, c'est le reflet de la civilisation grecque en général et de son application à la religion en particulier. Il y a des femmes qui ont essayé de participer aux Jeux indirectement.
Il y a des concours de course à pied pour de jeunes filles qui...
Alors ça, c'est les Héraïa. C'est aux Héraïa qu'on faisait ces courses-là. Et puis, il y a, par exemple, l'exemple de Kiniska, fille d'Archidamos, donc fille du roi de Sparte, qui a participé indirectement en faisant courir des chevaux. Donc, les chevaux étaient à elle, donc elle... Et ça n'avait peut-être pas été dit. Enfin, donc c'est un des cas où on a presque enfreint la règle. Mais c'était exceptionnel et puis c'était une reine.
Et puis ceci dit, les femmes étaient aussi exclues lors des premiers JO modernes. Il n'y avait pas de femmes non plus.
Très juste, oui.
Les athlètes vont participer aux compétitions nus. Ils se recouvrent le corps d'huile d'olive avec du sable. C'est pour réguler leur température corporelle. J'ai lu que c'était un moyen de s'assurer aussi qu'aucune femme ne participe aux compétitions. C'est vrai ?
Oui, évidemment, c'est un moyen de vérification. Mais le fond de la chose, n'est-ce pas, c'est la nudité grecque. Gymnastique, ça vient du mot gymnos qui veut dire nu. Et donc c'est simplement que la nudité n'était pas frappée du même opprobre dans cette civilisation-là que dans le christianisme et dans d'autres civilisations. Non que les Grecs fussent particulièrement indécents, je crois, mais enfin la nudité était acceptée, c'est un phénomène général.
Et vous parliez tout à l'heure des épreuves sportives reines, donc vous avez cité le pentathlon, les épreuves de lancer de disque, de saut en longueur, de lancer de javelot. On n'a pas parlé du pancras. Le pancras, c'est un sport qui est aujourd'hui disparu. Est-ce que vous pourriez nous décrire ce que c'est ? C'est assez violent pour l'époque.
Oui, ben disons, il n'y a pas de règle. Le pancras, c'est le combat total. Et donc, tous les coups sont permis. Donc c'est contrairement au pugilat, à la boxe, etc. Là, c'est le combat avec tous les moyens qui pouvaient finir par des blessures pour les concurrents, ça c'est sûr. Oui.
Une forme de lutte qui autorise tous les coups, à part mordre et arracher les yeux, et introduire les doigts dans le nez de l'adversaire.
Ce sont les... Ah ça, je ne savais pas, vous m'apprenez quelque chose. Bon, c'est au moins une consolation, c'est ça qui ne risquait pas.
Ça reste tout de même assez violent. Il n'y avait aucun sport collectif lors de ces épreuves.
Oui, très juste. Non, pas de sport collectif. Enfin, si vous voulez, le bige et le quadrige, il y a deux chevaux et quatre chevaux, mais ce sont les chevaux qui sont ensemble, ce n'est pas les concurrents. Oui.
Et pour les tricheurs, on leur réservait l'usage du fouet. Et pour les vainqueurs, les couronnes, évidemment. Est-ce qu'il y a des athlètes inoubliables qui se seraient démarqués, comme aujourd'hui, je ne sais pas, on pense à Usain Bolt, Carl Lewis. Est-ce qu'il y a...
Peut-être le plus célèbre est-il Milon de Crotone, le lutteur, qui a remporté, donc on est dans les années 530 à 510 avant Jésus-Christ, et qui a remporté 6 ou 7 victoires olympiques à la lutte. C'était un... un athlète monumental. On disait qu'il s'était entraîné en portant sur ses épaules un veau. Et puis, donc, avec les jours passant, le veau forcissait et il continuait de le porter, si bien qu'à la fin, il était capable de porter un taureau sur ses épaules. Et donc, il était réputé pour une force et un appétit aussi hors du commun, à tel point qu'on raconte que certaines de ses victoires ont été remportées parce que personne ne s'était présenté, aucun concurrent n'osait l'affronter. Et donc, c'est ce qu'on appelait la victoire sans poussière, puisqu'il n'avait même pas eu à se rouler dans la poussière avec son adversaire. C'est un athlète réel, hein. Enfin, il a réellement existé. On a retrouvé une base de statue en son honneur à Olympie. On a aussi un poème de Simonide qui lui était consacré. C'était une masse qui faisait peur. Et donc, il a fini par être vaincu, parce que tous les athlètes trouvent leur maître un jour ou l'autre, avec le temps, mais par un adversaire qui utilisait la technique consistant à ne pas l'approcher de près, à se défendre à bout de bras pour l'épuiser, sans entrer en contact, parce qu'il était tellement lourd et puissant que le contact aurait été dangereux. Un peu la tactique de Cassius Clay dans ses combats de boxe avec ses adversaires autour desquels il dansait pour les épuiser. Alors c'est ça qui a eu raison de Milon de Crotone.
Et vous le disiez à l'instant, ces athlètes sont célébrés par-delà leur mort. On va sculpter des couronnes de lauriers sur leur stèle, on va ériger des statues dans leur cité. Est-ce qu'il y a une forte héroïsation de ces athlètes à l'époque ? J'ai l'impression que oui.
Héroïsation au sens, je dirais, moderne du mot, c'est-à-dire on les considère comme des vedettes et des héros. Pas héroïsation au sens grec du terme, dans laquelle le sens dans lequel la personne humaine devient Dieu. Vous voyez, on n'allait pas jusque-là. Il n'y a pas de divinisation ni de transformation en Dieu. Par contre, il y a un culte de la personnalité, ça c'est sûr. Donc vous l'avez dit, les inscriptions, les récompenses pécuniaires aussi, qui étaient très importantes de la part des cités, qui étaient fières d'avoir un vainqueur olympique. On raconte l'histoire d'un vainqueur d'Agrigente, qui a remporté deux Olympiades de suite à la course du stade et qui fut escorté à son retour donc à Agrigente par une procession de 300 chars tirés par des chevaux blancs. Donc il faut imaginer, c'est vraiment la rentrée triomphale dans la patrie. On insistait particulièrement, bien sûr, sur ceux qui étaient vainqueurs soit dans plusieurs Olympiades, soit dans plusieurs épreuves à la même Olympiade. N'oublions pas les chefs-d'œuvre littéraires qui ont été composés. Donc le poète Pindare, par exemple, composait ce qu'on appelle des épinicies, c'est-à-dire des odes pour célébrer les victoires des participants au concours. Il y a tout un livre de ces odes qui est consacré aux vainqueurs olympiques. Par exemple, trois épinicies pour Hiéron de Syracuse, le tyran de Syracuse, vainqueur à la course de chars. Et donc là, on voit bien comment Hiéron, le tyran, a commandé à Pindare, après sa victoire, une ode, il les payait très cher, Pindare était très connu. Et puis, donc Pindare, en échange, compose ce poème accompagné de chants et de danse, dans lequel il fait l'éloge, bien sûr, de la victoire de Hiéron, mais il lui donne aussi des conseils moraux, des conseils de modération dans la victoire, ne pas se prendre pour un dieu, justement. Mmh.
Il y a toute une littérature sur le sujet. Et puis, certains auteurs grecs de l'époque vont se montrer aussi assez critiques de ces Jeux olympiques. Qu'est-ce qu'ils disent exactement ?
Oui, c'est très grec, ça. Comme j'ai eu l'occasion de le dire lors des regards sur la liberté, mais il faut le répéter chaque fois, les Grecs ont à la fois inventé les choses, la théorie des choses et la critique des choses. Et donc l'exemple classique, c'est celui de la démocratie, où ils ont à la fois mis en pratique la démocratie, théorisé la démocratie comme régime politique et, par la voix d'auteurs importants, critiqué les dérives de la démocratie. Alors pour les Jeux olympiques, c'est pareil. Les Grecs ont inventé les Jeux olympiques. Ils ont fait la théorie de ce type de rencontre qui célèbre la beauté, les valeurs du sport, les valeurs de la collectivité en l'honneur du divin. Et puis, il y a aussi une critique. Alors cette critique, on la trouve dans diverses formes de pensée. D'abord de la part des philosophes. Par exemple, Diogène disait que de tous les animaux, celui qui court vite, c'est le lièvre, et c'est aussi le plus couard de tous les animaux. Voilà, et donc appliquer ça maintenant aux épreuves de course. On a aussi des textes philosophiques de Platon, d'Isocrate, qui ont réfléchi sur ce culte des athlètes. Il y a par exemple un passage célèbre d'Isocrate qui commence un discours par cette réflexion qu'il est étonnant que les fondateurs, les grands législateurs, les fondateurs des concours, en particulier du concours olympique, aient décerné de si grands éloges, de si grands hommages à ces athlètes qui ne travaillent qu'avec leur corps, sans penser à récompenser les intellectuels, les penseurs, les politiques. Et pourtant, continue Isocrate, si un athlète court deux fois plus vite, personne n'en retire aucun bénéfice. Alors que si un philosophe, un politique avait une conception juste et était capable d'en convaincre les autres, alors il y aurait peut-être un profit pour la collectivité. Et donc là, on a vraiment une opposition entre les valeurs du corps et les valeurs de l'esprit. Et puis l'histoire ne s'arrête pas là, parce que rappelez-vous qu'il y a aussi des textes chrétiens. Par exemple, dans la première épître aux Corinthiens, saint Paul parle des athlètes en disant que les athlètes, il prend l'exemple de la course et du pugilat. Et donc les athlètes luttent pour une couronne périssable. Tandis que le chrétien, selon lui, est en quelque sorte l'athlète de Dieu. Et lui, il meurtrit son corps pour une couronne qui est d'un autre ordre et d'une plus grande valeur. Donc il y a toute une réflexion critique, mais vous voyez, c'est la critique constructive qui essaye de remettre en place les hiérarchies et d'étager les valeurs.
Mmh, bien sûr. Alors ce ne sont pas les auteurs grecs qui finiront par avoir la fin des Jeux olympiques antiques. Ces derniers vont finir par être bannis par justement un empereur chrétien.
Oui, vers 400 après Jésus-Christ. On ne sait pas si c'est Théodose Ier, Théodose II, mais ça faisait partie du mouvement général de suppression des cultes païens, puisque l'aspect religieux est resté jusqu'à la fin.
Alors, Situs, Altus, Fortus, communautaire, c'est la devise des Jeux olympiques modernes, la traduction officielle, plus vite, plus haut, plus fort. Est-ce qu'il y avait une devise sous l'Antiquité ?
Non. C'était Zeus, hein, le nom qui servait de ralliement.
Toujours. Alors, des tremblements de terre vont finir par détruire le site d'Olympie. Il faudra attendre 1896, on l'a dit, pour que les Jeux ressuscitent sous un autre format. On l'a vu au cours de cet entretien, il y a de nombreuses différences qui existent entre les Jeux antiques et les Jeux modernes, le caractère religieux, la durée, la nature des épreuves aussi. Il y a un autre emprunt que l'on peut faire à tort aussi aux Grecs, c'est le parcours de la flamme olympique. Il n'y avait pas de flamme, il n'y avait pas de relais à l'époque.
Mais non, il n'y avait pas lieu de faire un trajet à la flamme olympique, d'abord parce qu'il n'y avait pas de flamme olympique, mais aussi parce que tout se déroulait sur place, toujours au même endroit. Donc on avait le temple de Zeus et à quelques centaines de mètres le stade, donc il n'y avait pas lieu de faire un parcours. Ça a été une innovation très, très réussie d'ailleurs, qui remonte aux Jeux de Berlin, n'est-ce pas, de 1936.
Et comme le marathon. Le marathon aussi, on pourrait croire que c'est très ancien, mais en réalité, c'est une épreuve très récente.
Oui, le marathon, c'est une jolie histoire emblématique. Donc, il n'y a jamais eu d'épreuve de marathon dans l'Antiquité. Et par contre, il y a quelques anecdotes sur des coureurs, plusieurs d'ailleurs. L'une, c'est celle chez Hérodote du coureur appelé Phidippides, qui aurait été envoyé par les Athéniens à Sparte pour demander aux Spartiates leur alliance en vue de la bataille qui allait être, donc la bataille livrée à Marathon par les Grecs contre les Perses. Les Spartiates, comme d'habitude, ont dit oui, mais pas tout de suite. Ils avaient une fête religieuse à respecter et au total, ils ont envoyé leur contingent trop tard et ils sont arrivés en retard à la bataille de Marathon. Mais le coureur, lui, avait fait son office et donc il avait parcouru la distance qui est d'environ 250 km. Entre Athènes et Sparte. Alors ça, c'est Phidippides. Il y a d'autre part l'anecdote d'un soldat athénien ayant participé à la bataille de Marathon qui regagna Athènes pour annoncer la victoire. Donc là, il parcourut les 40 km ou à peu près qu'il y a entre Marathon et Athènes, annonça que les Athéniens avaient vaincu et tomba mort. Et puis, on a un texte de Lucien, donc on est déjà au IIe siècle après Jésus-Christ, dans l'Antiquité post-classique, disons, qui unit les deux aspects en appelant Philippides le soldat de Marathon. Et à partir de là, s'est construite cette légende du soldat revenant de Marathon, qui a eu, je crois, comme moment central, ce qui l'a vraiment mis en avant, c'est un poème célèbre de Robert Browning, le poète anglais du 19e, qui est consacré à Philippides. Et donc c'est sur la base de tout ça qu'a été construite, peut-on dire, l'épreuve du Marathon. Alors ici, il faut citer le nom d'un confrère, c'est Michel Bréal, spécialiste de linguistique ancienne et qui était membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Et c'est lui qui a eu l'idée d'inventer, en quelque sorte, cette épreuve du marathon sur la base de toutes ces sources. Donc il lui revient ce mérite et il a imaginé là quelque chose d'extrêmement durable. À son époque, il s'agissait donc d'une quarantaine de kilomètres. Et puis, la distance exacte a été précisée lors des Jeux de Londres en 1908, parce qu'il fallait que la ligne de départ se trouve au château de Windsor et l'arrivée, nécessairement, au pied de la loge du roi d'Angleterre, Édouard VII. Et donc, ça donnait 42,195 km. Et nous avons gardé cette distance qui est donc complètement conjoncturelle et régalienne. Mais voilà, ça fonctionne bien ainsi. C'est très emblématique. C'est le marathon, si vous voulez, c'est plus grec que grec. Et ça montre l'importance de ce patrimoine hellénique que nous ne cessons de transmettre en le repensant aujourd'hui.
Une longue histoire du marathon. Ce qui est certain, c'est qu'il y aura une épreuve dans les JO qui vont, aux JO qui vont arriver. La cérémonie va débuter dans quelques jours. Vous allez la suivre, malgré tout ?
Oui, au moins à distance.
Merci à vous, Laurent Pernot. Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose ?
Il y a une chose à souligner, c'est que l'initiative du baron de Coubertin s'explique par le contexte de la recherche savante de son époque. Et ça, on n'est pas toujours conscient. Donc, Coubertin cette idée lui est venue dans les années 70, 80 et 90 du 19e siècle. Or, c'est précisément l'époque où l'on fouille à Olympie, où l'on commence donc à voir concrètement ces installations surgir du sol. C'est aussi une très grande époque pour la recherche sur l'hellénisme en général, à la fois l'archéologie et la littérature. Et il était porté par tout ça. Donc son idéal hellénique venait aussi des découvertes scientifiques de son temps.
Merci à vous. Peut-être qu'on va susciter des envies chez les auditeurs de se lancer dans des parties de Pugila ou de Pancrace. Merci beaucoup, Laurent Pernot.
Merci à vous.
Canal Académie.